Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alban Ventura, vous recevez donc ce matin le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel.
Bonjour Fabien Roussel.
Bonjour à vous deux.
Vous avez fait de la lutte contre les paradis fiscaux votre cheval de bataille depuis que vous êtes député. On va en reparler, Fabien Roussel. D'abord, arrêtons-nous sur l'épidémie. Le professeur Didier Pitté, épidémiologiste qui était à votre place lundi matin, expliquait que nous étions en sursis, qu'il fallait faire preuve de responsabilité, de prudence, mais qu'il n'y avait pas lieu de reconfinement strict dans tout le pays. Vous pensez qu'il faut tenir cette ligne d'hypervigilance sans tout fermer ?
Sincèrement, je vous dirais que j'aurais bien aimé que l'on puisse en parler un tout petit peu avec les Français, au Parlement, entre nous. Pas entre scientifiques, pas seulement entre politiques, mais entre nous. Aujourd'hui, ce que je regrette, et c'est une forme de coup de gueule que je pousse, parce qu'il y a eu hier 586 morts du Covid. Il y a en moyenne, depuis 3 semaines, entre 450 et 500 morts par jour. Le mois de février va être terrible. Il va y avoir entre 13 à 15 000 morts du Covid au mois de février. Les personnels soignants sont à bout, ça fait un an qu'ils tiennent. Et le président de la République a fait un choix, seul, sans aucun débat, et je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de débat dans le pays, a fait le choix d'un plateau haut, comme c'est dit. C'est-à-dire de ne pas confiner et de faire le choix d'avoir 500 morts par jour, les plus fragiles.
J'ai sous les yeux, Fabien Roussel, le nombre de décès par million d'habitants dans tout le monde et donc dans l'Europe. C'est partout pareil.
Mais écoutez, moi je m'occupe de la France. Il y a chez nous un président de la République qui a fait un choix, seul, un pari, qui coûte cher en vie humaine. Et ça n'a été discuté partout. J'entends que les Français ne souhaitent pas être reconfinés parce que le confinement, c'est dur. J'entends le président de la République qui dit faire le choix de l'économie, et encore, quand on voit tous ces commerces qui sont encore fermés, ce couvre-feu à 18h, c'est une partie de l'économie qui fonctionne. C'est pas toute l'économie. Et donc, il a fait un choix seul, qui est un choix qui a un coût sanitaire extrêmement élevé et qui oppose les plus fragiles à ceux qui ne voudraient pas être confinés. Et jusqu'à quand ça va durer ?
Mais vous êtes en train de dire quoi ? Qu'on joue avec le feu, que ça va s'emballer dans les 2-3 semaines qui viennent et qu'on ne pourra plus faire face à l'épidémie ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ?
Je vous dirais que quand on fait, c'est presque un choix de société, c'est un choix presque philosophique.
On laisse mourir les gens dans ce pays, c'est ça que vous dites ?
Quand le président de la République assume le choix de laisser une épidémie s'enflammer à coups de 20-25 000 cas contacts par jour, et donc qu'il y ait derrière 400 à 500 morts par jour parmi les plus fragiles, c'est un choix pour moi de société philosophique qui ne peut pas être dans les mains d'un seul homme. C'est ce qu'il a fait. J'aurais aimé que l'on puisse débattre de ces choix-là, qu'il puisse nous donner les chiffres qu'il a et qui l'ont conduit à prendre cette décision.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Fabien Roussel ?
Mais je pose la question, jusqu'à quand ça va durer ? J'entends dire qu'il n'y aurait pas d'autres
mesures. Là, on est à 18 000 cas par jour.
Ouais. 20 000 hier, ça tourne entre 20 à 25 000. C'est ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr nous sommes tous face à une pandémie, à des choix difficiles à faire, qui ont des coûts humains. Il y a certains scientifiques qui disent qu'il est possible de s'attaquer au virus, voire à l'éradiquer si on arrive à baisser le taux de contamination.
Donc, est-ce qu'on met en place ce que certains appellent la stratégie zéro Covid ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Alors, je rappelle pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on réduit ses contacts au strict minimum, on arrête toute activité autre que les activités vitales, mise en place également de zones vertes, c'est-à-dire que les zones où le virus circule pas, ben là, il peut y avoir une activité, on dépiste, on trace, vaccine.
Mais on n'a pas...
C'est ça que vous voulez, stratégie zéro Covid ?
Je souhaite pouvoir en débattre dans ce pays. Enfin, vous vous rendez compte ? Des voix s'expriment, comme le président de la région Grand Est, pour demander des confinements territorialisés. Je trouve que, oui, c'est une bonne idée. Pourquoi pas ne pas isoler des villes, des quartiers, des territoires où on sait que le virus est en train de flamber, où il y a des variants qui sont là. Aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité, y compris qu'on a des chefs d'entreprise qui nous demandent cette lisibilité, qui sont prêts à dire, moi, je préfère être fermé encore 3 semaines strictement, mais qu'on me dise que le 1er mai, j'ouvre.
Donc
aujourd'hui, il n'y a pas de trajectoire.
Fermé Dunkerque, par exemple, c'est à côté de chez vous, c'est à 1h30 de votre circonscription.
A demandé à ce que l'on puisse protéger sa ville et protéger la population de sa ville, fermer les écoles, le temps que l'on puisse reprendre la main sur l'épidémie. Aujourd'hui, ce n'est pas le choix que fait le président, mais c'est ça qui m'affole. C'est un homme, aujourd'hui, qui décide et qui décide d'appliquer une stratégie, un pari dont le coût sanitaire est élevé en vie humaine.
Alors, vous saluez Angela Merkel, la chancelière allemande, qui veut fermer ses frontières. Elle s'est fait rappeler à l'ordre par la Commission européenne, d'ailleurs. Elle veut fermer, notamment, la frontière avec la Moselle.
Oui, bah, jusqu'à ce que la France fasse la même chose. Si,
Vous êtes d'accord avec elle ?
Bien sûr. Mais on ne peut pas demander des efforts aux Français, des efforts, y compris le couvre-feu en éteint, demain, peut-être plus, sans, de la même manière, protéger notre pays. On a des variants qui arrivent.
Vous savez que les efforts, moralement, cela a un coût. Regardez les étudiants. RTL et M6 organisent aujourd'hui, d'ailleurs, avec le Secours Populaire, une journée spéciale pour leur venir en aide. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre circonscription du côté de Valenciennes, dans le Nord ?
Mais justement,
ces étudiants qui, en plein désespoir,
qui
se retournent vers les banques alimentaires.
Samedi dernier, nous avons fait le choix d'organiser une opération de solidarité que l'on va reproduire tous les 15 jours. Nous sommes allés distribuer 164 colis alimentaires à 164 étudiants. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Nous pensions, nous, avoir à répondre à 20-30 étudiants. On a lancé un mail, on a demandé, on a regardé. On a eu 164 demandes. Nous avons fait cette distribution. Il y a une générosité, d'ailleurs, de la part de la population.
Il faut faire plus.
Énorme. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je reviens à notre discussion d'avant, c'est que s'il y a des choix difficiles qui sont à faire pour endiguer le virus, il faut un accompagnement beaucoup plus fort. Il n'y a pas l'accompagnement social qu'attendent des Français qui souffrent aussi de cette situation.
Il y a eu beaucoup les de mesures, là, notamment pour les, les étudiants.
Oui, mais les étudiants, ce qu'ils ont, c'est le repas à 1 euro par jour et de temps en temps, une aide ponctuelle. Ils demandent une aide pérenne.
Vous voulez quoi, un RSA jeune ?
Il y a le RSA jeune pour ceux qui ne sont pas qui sont sortis des études, mais il y a tous ceux qui sont dans les études, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus de job. Eux, ils réclament le revenu étudiant. D'ailleurs, Marie-Georges Buffet, qui a fait une commission d'enquête sur les impacts de la pandémie sur la jeunesse, a fait cette proposition qui a été votée à l'unanimité, c'est-à-dire un revenu étudiant, au moins pendant cette période, qui leur donne des ressources chaque mois, leur permettant de vivre dignement. Vous savez, une société qui ne s'occupe pas de sa jeunesse, ça dit beaucoup de cette société. Et aujourd'hui, eh bien, notre pays ne s'occupe pas de sa jeunesse.
Fabien Roussel, vous partez en guerre contre l'évasion fiscale. C'est un sujet qui vous tient à cœur depuis longtemps, depuis que vous êtes député. Après notamment les révélations de l'enquête OpenLux, enquête réalisée par plusieurs journaux européens, dont le journal Le Monde, qui a épinglé le Luxembourg. De quoi s'agit-il ? De quelle somme on parle ?
D'abord, c'est la transition que l'on fait. Il y a les étudiants qui meurent de faim. Il y a 12 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans notre pays. Il faut les accompagner. Et à côté de ça, il y a des grandes fortunes, il y a des multinationales qui délocalisent leurs bénéfices et leur patrimoine dans des paradis fiscaux comme le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est 55 000 sociétés offshore qui n'ont ni bureau, ni salariés, dont l'objectif est de rapatrier des actifs financiers. Il y a 6 500 milliards d'euros d'actifs financiers.
Il y a combien de Français là-dedans ?
C'est le troisième PIB mondial. Hein. Après la Chine et les États-Unis, c'est le Luxembourg en PIB d'actifs financiers.
Il y a combien de Français là-dedans ?
Et il y a dedans 15 000 Français, dont les plus grandes fortunes de notre pays, les Bernard Arnault, Ladrette de la Charrière, les Hermès, les Bettencourt, etc., qui ont des dizaines de sociétés dans ce paradis fiscal. Ils payent 0% d'impôt sur les dividendes. Ils payent 0% d'impôt sur les plus-values boursières. Et nous, l'État, ça nous manque justement pour financer nos hôpitaux, nos étudiants, nos écoles.
Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, Fabien Roussel, quand ni la France ni la Commission européenne ne reconnaît le Luxembourg comme un paradis fiscal ?
Mais d'abord, on s'attaque à ces délinquants en col blanc qui existent dans notre pays déjà. Enfin, il y a quand même un message à lancer auprès des fortunes françaises et de ceux qui travaillent dans notre pays. Vous savez que j'irai demain, d'ailleurs, au Luxembourg, voir cette entreprise qui détient les fonds du fonds de pension américain Apollo et qui est aujourd'hui en train de fermer un four à Cognac où les salariés sont en grève pour défendre leur emploi et leur outil de travail. Ce fonds Apollo a gagné un milliard d'euros en faisant une opération boursière au Luxembourg. Et cet argent qui a été au Luxembourg, 528 millions d'euros sont partis aux îles Caïmans. depuis le Luxembourg. On n'en verra plus ni
et
la
en
couleur.
Même temps, ils ont licencié ici.
Et en même temps, ils licencient à Cognac. Et quand ça part au Luxembourg, cet argent, il est mélangé avec le trafic d'armes, avec le trafic de drogue, avec le trafic d'êtres humains, parce que les îles Caïmans, alors ça, c'est le paradis fiscal notoire et bien connu, dont on ne sait rien. C'est ça la réalité des paradis fiscaux. Pendant qu'ici, des étudiants se serrent la ceinture, pendant que vous-même, vous faites une opération secours populaire français pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, pendant ce temps-là, les plus grandes fortunes de notre pays continuent de s'enrichir et de transférer leurs bénéfices là-bas, dans les paradis fiscaux. C'est inadmissible. C'est pour ça que j'ai proposé, moi, de prélever à la source les bénéfices de ces multinationales, comme on fait le prélèvement à la source de nos impôts sur nos salaires. Faisons-le sur les bénéfices de ces multinationales. Empêchons que l'argent sorte des frontières. Vous voyez bien que les frontières sont utiles là, pour le coup.
Fabien Roussel, quelques questions politiques. Est-ce qu'il faut instaurer un vote par anticipation pour la présidentielle avec une machine à voter ? Ce serait pour éviter l'abstention.
Alors éviter l'abstention, oui. Tout faire pour que les gens aillent voter, oui. Et je découvre hier qu'il y a un amendement qui tombe du ciel du gouvernement mettant en place un tel dispositif dont je connais rien. Rien du tout. Il paraît que ça a été mis en place dans d'autres pays. Vous savez, quand on touche à un mode de scrutin, et en plus le scrutin de la présidentielle, ce qui est bien, ce qui se fait en démocratie normalement un petit peu, hein, c'est d'en parler avant. Et c'est d'avoir donc un texte qui nous montre, qui nous donne un rapport d'information, qui nous montre comment ça se passe dans d'autres pays, comment est-ce
qu'il y a
des
possibilités. Et donc vous insinuez quoi, que c'est suspect ?
Ben, quand on ne sait rien, c'est qu'il peut y avoir toutes les magouilles possibles derrière, à un an d'un scrutin présidentiel. Donc je ne dis pas non. Je ne dis pas oui, je demande à voir. Et j'aimerais bien avoir le temps de pouvoir l'étudier.
Rapidement, molle, vous pensez que c'est le qualificatif qui va le mieux à Marine Le Pen ? C'est ce qu'a employé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Vous parlez de ce débat honteux, où d'un côté, il y a un ministre de l'Intérieur de la République qui dit à l'extrême droite « vous êtes molle », et une représentante de l'extrême droite française qui dit à ce ministre « j'aurais pu signer votre bouquin ». Eh bien, vous savez... Ça m'a fait penser à Jacques Duclos qui disait « c'est blanc bonnet et bonnet blanc ». Comment voulez-vous qu'après les Français, on leur dise « il faut faire le pacte républicain » ? Mais enfin, c'est honteux. Voilà, c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, l'extrême droite, elle prend tout cet espace dans notre pays.
Merci beaucoup Fabien Roussel.
Le président...